Et je reviens sur cette question pour commencer à parler justement de celui-là.
Oui.
Parce que autant pour la borne, le SDF, quelque part, même s'il a existé, a un statut social de fantôme, c'est-à-dire qu'il a disparu, on n'en trouve pas exactement trace, me semble-t-il.
Dans la vraie vie, on n'a pas réussi à le retrouver.
Voilà. Ouais. Autant là, tu es face à un tragique qui peut s'apparenter aux faits divers aussi. Donc du coup, les pincettes sont très spécifiques. Enfin, c'est-à-dire que les précautions sont grandes, elles ont duré jusqu'au bout. Enfin, on a eu des échanges au long des mois ou sur le blog, il fallait faire des petites modifs, j'imagine, sur le texte du bouquin aussi, parce que c'est très délicat à tout niveau moral. Donc ça mériterait sans doute que tu nous en lises un peu et que tu le présentes ensuite, du coup, comme on a fait depuis le début, pour qu'on rentre un peu dans cette matière et qu'ensuite... Tu nous parles un peu de l'histoire réelle dont c'est parti.
C'est un extra un tout petit peu plus long que les autres. Une demi-heure plus tard, j'arrive à Montmartre, ou un peu plus. Je n'avais pensé qu'à Suleyman, à son désarroi, que j'essayais de calmer, et pas un instant à ce que je ferais une fois là-haut. Alors quand j'ai eu fini de monter cet escalier, le soleil disparu, je me suis senti idiot. Suleyman était musulman comme moi. J'ai commencé à prier en collant des morceaux de texte effacés dans ma tête, un mur aux affiches arrachées, déchirées, des lambeaux qui pendent. Mais une pointe dans le dos est venue me perturber, une sensation de plus en plus aiguë, une gêne, une chaleur ou quelque chose de froid. Est-ce que c'est le dieu des chrétiens qui se signale? De fait, je suis sur son domaine. L'âme de Suleyman lui appartient en quelque sorte, tombée dans sa poche quand je l'ai fait venir en priant près de la basilique. Pour m'assurer qu'un dieu au moins le prendra en charge, je creuse alors encore plus mes souvenirs, je soulève de nouveaux lambeaux d'affiches pour retrouver la seule prière chrétienne que je connaisse, par sécurité. Je mélange ces morceaux de phrases avec ceux qui me restent de l'école coranique, du marabout qui vote Allah. C'était un beau bazar, ma tête, comme le Mali. Je commençais des phrases dont je ne savais pas où elles allaient, et deux ou trois mots plus tard, j'arrêtais de me raconter des blagues. Mais comment savoir si c'en était puisque je n'allais pas au bout? Je ne tiens pas en place. Le salut de Suleyman est une question de seconde. Un Indien vend des marrons chauds. Je pourrais me précipiter sur lui, voler son caddie et le brasero qu'il a calé dedans. C'est pour prier, monsieur, c'est pour prier. Je lui donnerai des euros, 3 euros par bouffeur de marrons, qu'il ne pourra servir puisque je vais, quoi, prier. Cette cérémonie me coûtera cher, mais je suis hors de moi, à chercher l'âme de Suleyman pour l'embrasser comme font les âmes. Je ferai brûler des herbes, je l'enverrai acheter des cœurs et des poumons halal, et les fleurs que je pourrai trouver sur les pelouses et jeter par poignées sur son grill. Il voudra que j'arrête, les touristes vomiront ses marrons s'ils sentent la viande, si c'est un hôtel maintenant et plus de la gourmandise. Je me vois faire ça et je ne traverse pas la rue pourtant. J'aurais honte d'être filmé par les touristes. J'en ai déjà honte. Je ne me laisse pas aller. Je deviens plus raide encore. Debout, je ne bouge pas. Je prie, mais sans bouger. Je bricole, je prie. Je ne marmonne même pas. C'est dans ma tête. À un moment, un jeune couple vient pourtant s'arrêter longuement devant moi. Je ne bouge pas. Il ne faut pas qu'ils aient envie de me filmer. Pourquoi me regardent-ils? Ils ne me filment pas, mais au bout de 3 minutes ou quelque chose comme ça. Une prière complète que j'ai fini par reconstituer. La femme se détache de son copain et elle s'avance dans ma direction et sur le trottoir devant moi, elle pose une pièce et ils s'en vont. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je n'ai plus de prière. Je chante des chansons dans ma tête. Les lèvres ne bougent pas du tout, des chansons de la radio. Sans doute les paroles ne ressemblent pas à des prières. Je ne suis pas certain qu'elles consolent Suleyman de quoi que ce soit, mais ça marche quand je les entends, moi. Alors pourquoi pas toi? Peut-être pourront-elles t'aider à t'alléger aussi, à fixer ton âme errante. Peut-être plairont-elles au Dieu chargé de te trouver une autre vie, au cours de laquelle tu seras plus heureux en France, ou une autre vie ailleurs si tu ne veux pas réessayer, peut-être en Afrique. Suley, pauvre bonhomme. Une femme tout abîmée approche et vient danser près de moi. Elle est jolie ta chanson! Comment sait-elle que je récite des chansons à l'intérieur? Mes lèvres immobiles, mes jambes et mes pieds qui ne bougent pas, ne dansent pas, et je ne claque pas des doigts. Est-ce qu'elle est capable de lire dans mes pensées? Est-ce que c'est un démon? Elle sourit, elle rit, elle veut danser avec l'Indien des marrons chauds qui la repousse durement, mais elle est perchée, hein, avec une Américaine qui s'enfuit en poussant des cris aigus. Avec moi ensuite. Ça me glace, elle me dégoûte, elle pue, mais c'est peut-être Souleymane qui lit dans mes pensées. Ou Souleymane bientôt. Alors je danse avec le corps choisi pour accueillir l'âme du Chibani, qui sent très fort le vin, mais c'est bien lui, celui-là, quelque chose me le dit. Et elle sourit, mais c'est bien lui. Et puisque c'est pas à pleines dents, et puisque c'est pas à la vie, c'est pour saouler, l'accueillir, qu'il entre mieux en elle, et je me désole dans ma tête bien désolée. J'aurais voulu pour lui un autre corps dans sa nouvelle vie, plus beau. Mais elle danse, c'est déjà pas mal. Je fais l'article à Souleymane, comparé aux autres qui veulent filmer ton âme grimpant au paradis. Je fais l'article sans savoir si je dois parler à la fumée ou au trou édenté de la poivrotte pour qu'ils m'entendent au mieux. C'est un sketch. Des touristes me regardaient, certains filmaient. Ça fait partie de la nuit blanche ou c'est le off? Des gens s'arrêtent. Je n'ai pas le cœur d'expliquer à Souleymane qu'on doit s'arrêter, se faire discret. L'Indien redouble d'efforts et augmente ses prix. Marron chaud, 4 euros, marron chaud, very good, very good. Je prends sa main, je me rapproche de son bassin, je danse comme elle veut, c'est elle qui guide. Mais il faut peser sur elle pour qu'on s'éloigne des marches et des touristes. En dansant, car je n'ai pas le cœur d'arrêter ça. C'est difficile de se laisser aller parce que son haleine, c'est vraiment la charogne d'un mouton, mais c'est peut-être Souleymane aussi. Quand je repars une heure plus tard, j'aperçois en terrasse le couple qui m'a laissé une pièce. Est-ce que je vais leur demander pourquoi cette pièce? Parce que je suis pauvre. J'hésite. Il m'aperçoit et me désigne du menton à son ami. J'hésite encore, je n'y vais pas. Je descends la colline jusqu'au métro Blanche. Là, je découvre la statue de la liberté, mais de la taille d'un homme. C'est un déguisement. Les gens prennent des photos. Ils jettent des pièces. Elle ne doit surtout pas bouger, la liberté, malgré le froid. Et les gens qui font les idiots autour pour se prendre en photo avec elle ou la faire craquer. Est-ce que les amoureux de tout à l'heure ont cru que je faisais la liberté? Je dévale le boulevard sans me retourner, voir s'ils lui mettent une pièce, jusqu'à Barbès-Rochechouart. Je voudrais même courir, mais cette douleur brûlante, je toussais, ça ne s'arrêtait pas, les poumons, la gorge. Souleymane me faisait savoir qu'il se sentait encore très seul, malgré tous tes efforts.
Merci. Et donc, situons les choses. De quelle histoire réelle s'agit-il?
Il s'agit d'un... En fait, Anissa Michalon, la photographe, a habité Montreuil il y a très longtemps, et, alors qu'elle était encore étudiante, et elle a donc découvert toute la population malienne de Montreuil. Et c'était les années où elle était en train de mettre en place des projets avec d'autres photographes. Et donc elle a commencé à travailler comme ça sur la présence malienne à Montreuil et sur les hommes dans les foyers, dans les différents foyers qui sont à Montreuil. Inévitablement, au cours de ce travail, elle est devenue amie avec certains d'entre eux, c'est-à-dire beaucoup plus proche qu'avec d'autres. Et ça l'a convaincue de la nécessité de continuer ce travail-là, de l'approfondir beaucoup, etc. Donc, elle a, pendant, disons, 3-4 ans, elle a fait des photos à Montreuil ou en région parisienne. Et puis ensuite, elle a commencé à aller au Mali, dans les villages d'où venaient les hommes avec lesquels elle avait tissé des liens d'amitié, pour photographier leur famille. Et ça, c'est un travail qui maintenant, voilà, qui s'est étalé sur une dizaine d'années, qui est peut-être maintenant un petit peu terminé, en tout cas pour en ce qui la concerne, elle. Et dans les hommes avec qui elle est devenue très amie, très proche, avec qui elle a une relation privilégiée, donc il y en a un qui s'appelait Idriss, qui était arrivé en France en 1990, il avait une vingtaine d'années. Pour aller rapidement, en 2006, il s'est pendu à la prison de Fresnes. Et donc Anissa avait, concernant Idriss, donc elle avait beaucoup de lettres, elle avait pas mal de photos, elle avait aussi séjourné dans la famille d'Idriss, et voilà, et c'était une histoire très marquante pour elle, notamment parce que c'est elle qui est retournée au Mali avec le corps pour expliquer à la famille ce qui s'était, enfin pour tenter d'expliquer à la famille ce qui s'était passé. Donc c'était une histoire qui était très chargée pour elle émotionnellement. Et dans tout ce travail-là sur l'immigration malienne, c'était une histoire qu'il était assez facile, en fait, d'isoler. C'est une histoire que, quand elle m'en parlait, moi qui m'a aussi beaucoup serré le cœur, quoi, enfin, beaucoup retenu. Et donc voilà, et là, la scène en l'occurrence, c'est la pure fiction, et c'est. C'était pour décrire en fait un petit peu la vie des hommes à l'intérieur des foyers, qui est vraiment une vie très, très singulière, puisque c'est une vie essentiellement masculine, toutes les générations confondues, c'est-à-dire vraiment avec des histoires très très différentes, hein, parce que ceux qui sont arrivés dans les années 70, évidemment, n'ont pas la même vie que ceux qui sont arrivés maintenant, quand bien même ils vivent dans les mêmes foyers, enfin, etc. Donc Et donc là, le Souleymane en question, c'est un homme qui a disons, la soixantaine et qui vient de mourir. Et en fait, Idriss ne le connaissait pas, mais il est très perturbé par cette mort-là.
Et ma question suivante allait être, mais je vais sans doute te proposer de lire ce qui défile en ce moment sous mes yeux, allait être justement le lien qui se fait quand tu es face à cette matière documentaire et documentant du réel, l'histoire réelle, quel bricolage te permet de tenir la position morale qu'on évoquait. C'est justement ce dont tu parles,
oui.
C'est bien fait. Dans ce dernier billet du blog.
Mais dans l'autre sens, en fait. Alors, oui. En fait, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la borne et la nécessité que moi j'avais ressentie à ne pas avoir uniquement un regard surplombant, mais bien à montrer que ce personnage-là bouge encore, qui bouge dans une direction qu'on n'imagine pas. C'est un petit peu l'inverse, mais c'est le même type de raisonnement, c'est-à-dire que dans la toute première version de ce texte, j'accordais très peu d'importance, je le disais, mais j'accordais aucune importance à la raison pour laquelle il s'était retrouvé en prison. Et cette raison, c'est un viol supposé. Alors, je dis supposé parce que, en fait, il s'est suicidé. Il est resté 2 ans à Fresnes sans avoir la date de son procès, et à un moment, il a craqué, il n'en pouvait plus. Lui, il n'arrêtait pas de dire qu'il était innocent. J'en sais rien. Mais au bout de 2 ans, voilà, c'est insupportable, et donc il s'est suicidé. Et dans un premier temps, moi, je pensais que cette histoire-là, cette histoire de viol, ne concernait pas du tout ce que moi je voulais dire avec cette histoire-là, quoi. Et en fait, à un moment, j'ai compris que si, et qu'il fallait que je fasse une place. Alors, ça ne veut pas dire que là, en l'occurrence, ça occupe 2 pages sur 70. C'est pas une question tant de volume que la question de compléter un certain tableau et donc c'est là. Le passage est un petit peu long aussi peut-être, mais... écrivant numéro d'écrou, fictionnant la vie d'Idriss, malien ayant vécu 12 années en France, dont 5 ans dans la clandestinité, dont 5 dans la clandestinité et 2 années en maison d'arrêt, je n'ai d'abord retenu de cette vie que les seuls aspects susceptibles de parler à la pitié des lecteurs. Si je m'en étais tenu là, pas de débat. Livre inoffensif, gentil et mouvant, mais une émotion niaise peut-être, méconnaissant la complexité des parcours, des vies, de l'âme. Alors même que se trouvait hyper visible dans la vie d'Idriss la chose, l'événement capable de porter tout ce déséquilibre et cette complexité. La raison pour laquelle il a été incarcéré. Une ancienne petite amie l'accusait, il l'aurait violée. Je prends des pincettes car je n'y étais pas et parce que le procès n'a pas eu lieu. Idriss s'étant suicidé après 2 années passées à Fresnes et alors qu'il ne savait toujours pas quand il y aurait son procès, et après avoir répété obsessionnel qu'il était innocent de ce crime aux 2 personnes qui le visitaient en détention, Anissa, 2 fois, donc la photographe, et un vieux français dont il était devenu l'ami, 29 fois. Ce ressassement n'est pas une information, l'expérience du procès et de la prison bouleverse tant la personne incarcérée que le fait de répéter cette innocence peut être pris pour ce que c'est, une affirmation, comme pour l'inverse, un aveu paradoxal. Ne jamais essayer d'arranger les choses, écrit Ponge dans la rage de l'expression. Les choses et les poèmes sont inconciliables. Si je n'ai fait que mentionner l'accusation de l'ex-compagne d'Idriss dans le premier jet de ce roman, c'est que cet emprisonnement et le suicide d'Idriss rajoutaient au drame, en faisaient une tragédie, couronnant la détresse et la solitude du migrant clandestin sans papier. Je reprends mon manuscrit et fais une vraie place à la possibilité de ce viol. C'est la victime qui l'évoquera. Je l'ai dit, j'ai déplacé quelques événements de la vie d'Idriss sur Ahmed, son ami algérien. Ahmed Idriss n'est plus simplement, dans mon roman, la victime d'un système économique et politique reposant sur le non-partage des richesses et l'asservissement des plus pauvres. Il est aussi coupable d'avoir voulu, un soir au moins, reprendre la main en contraignant quelqu'un. La force physique alors utilisée fait de la personne violée, détruite, quelqu'un d'encore plus faible qu'Ahmed Idriss. Ce dernier n'est plus la lie de la société, mais la couche avant la lie. Je n'excuse pas, j'explique. Deux opérations différentes. Et je n'explique pas Idriss le suicidé, mais Ahmed le fictif. Et tout en expliquant Ahmed le fictif, je ne l'aide pas à sortir de prison. Reconnaître des circonstances atténuantes n'est pas annuler le crime et la punition. C'est préparer la possibilité d'une réinsertion. Je ne parle pas du plan judiciaire, mais du plan humain. Je ne suis pas juge. J'essaie d'écrire des livres et le temps de la littérature n'est pas celui où il faut trancher, coupable ou non coupable. Bien plutôt, en amont et en aval, celui d'empêcher ou de réparer. Comment ? En m'arrêtant plus longuement sur l'événement ou ses répercussions, j'écarte la tragédie. Pour ce qui est d'Ahmed Idriss, bien entendu, car elle reste pleine et entière du côté de sa victime, et redistribue les responsabilités. Ahmed Idriss agit en commettant ce crime, dans la mesure que j'ai décrite plus haut, mais enfin, il faut lui rendre sa liberté d'individu. Sinon, ça n'est qu'un pantin dans mon livre. Il a fait ça, violer quelqu'un, chosifier quelqu'un, peut-être. En parlant plus de ce crime, je lui rends, très paradoxalement, je lui rends le peu de liberté individuelle que lui laissait sa situation en France. Et je fais même le même geste que dans la borne SOS 77, qu'en finissant par entendre la leçon de l'humour contenue dans les sculptures de Ghetto, j'ai rendu à Ghetto cette vitalité dont j'étais sur le point de le priver, achevant de le tuer, étouffant dans un livre ce dont la société, sa vie, n'avait pas encore eu la peau. Parfois, on écrit sans faire un bond hors du rang des assassins. Je rends à Ahmed Idriss le peu de liberté individuelle qui lui reste et qu'il aura manifesté au pire moment. Envoyé en France sur décision de son père, obligé de se cacher en France du fait de sa situation administrative, marié au Mali par décision de son père, bis, malmené par ses employeurs étant donné sa situation administrative, bis, séparé de sa compagne française pour des raisons qui lui appartiennent, terre, etc., il manifeste sa liberté individuelle de la manière la plus atroce. Mais parce que c'est une liberté, je ne dois pas la passer sous silence, quand bien même je préférerais ne pas. Je préférerais que tout soit blanc. Là, c'est une référence à Chambord. L'influence de la demeure royale taillée dans le calcaire ou le tuffeau des bords de Loire se ressent ici, dans le fait de proposer des représentations peut-être tristes, mais sans aspérité, sans cailloux dans la bouche. Un texte qui ne serait qu'empathie, ne provoquant personne. Une tragédie. Paradoxalement, je sauve humainement Idriss en évoquant son crime. Si j'en étais resté à la première version du manuscrit, je le tuais une seconde fois, comme j'avais failli tuer Ghetto, en lui refusant toute marge de manœuvre au sein d'un univers tragique. En désignant sa liberté d'individu, fût-ce au pire moment et de la pire des manières, je le sauve. Et puis pour finir sur une petite note sarcastique, et bien entendu il faut aller jusque-là, c'est-à-dire accepter l'ouverture des frontières à cette violence, parce que n'accepter sur le sol national que des immigrés méritants est une idée conne, car éminemment criminogène. On accepte tout le monde, on ne trie pas. Trier reviendrait à prendre les dociles, celui qui chantera sans accent la Marseillaise, ou celui qui recopiera le Notre Père sans faire de faute. C'est évidemment à partir du moment où l'on accepte la possibilité d'une violence, qu'elle disparaît comme une bulle de savon, instantanément, immédiatement. Ne faire qu'entrouvrir la porte, les frontières, génère bousculade, coup de coude et coup d'épaule dans le chambranle. Génère la compétition, le désir de certains, inconscient, inévitable, d'en écraser d'autres, pour ne plus être les plus malheureux.
Merci. Ça répond largement et au-delà à ma question. Peut-être en avez-vous des questions parce que la première partie du temps échu est écoulée. Vous n'êtes pas non plus obligé. Oui.
Comment s'appelle le SDF ?
Alors, c'est réellement le nom qu'il se donnait et il n'en a pas donné d'autre à Ludovic, donc au photographe, c'est Ghetto. Alors non, c'est-à-dire qu'au moment où avec Ludovic, enfin plutôt, donc on a travaillé avec Ludovic et ensuite au moment où on a proposé ce livre à Fabienne Pavia et donc au moment où on a compris que voilà, ça, le livre allait exister, on l'a cherché à nouveau et on n'a pas réussi à le trouver. C'est-à-dire qu'on nous a, il y avait toujours des gens qui l'avaient croisé, Donc on nous baladait, enfin pas méchamment, hein, mais on nous baladait et on n'a pas réussi à le retrouver. Mais on était un tout. Alors, on voulait par respect, par. Enfin, amitié, c'est un mot un peu trop gros là, mais. En fait, ce qui s'était passé dans la rencontre avec Ludovic, c'est que. Donc, Ludovic était descendu sur son campement et il avait demandé donc à Ghetto la possibilité de le photographier. Ghetto avait refusé que Ludovic le photographie lui. En revanche, il l'avait autorisé non seulement à photographier donc ses installations, ses sculptures, mais aussi d'utiliser les photos. Enfin, ça avait été dit entre eux, quoi. Ludovic lui avait donné un petit peu d'argent, mais ça, c'est dérisoire. Mais en tout cas, au moins, on n'avait pas le sentiment du tout de lui faire... de le trahir, quoi, en utilisant ces images-là.
Donc, il n'avait rien dit de son histoire.
Alors, il a parlé un petit peu avec Ludovic, mais pas sur un plan personnel, en fait. Et moi, vous savez, ça, c'est amusant. C'est la seule chose que Ludovic m'a rapportée... Bon, d'abord, la seule chose que Ludovic... Enfin, dans les anecdotes liées à son histoire, là, ce qui est fou, c'est la seule chose que Ghetto lui a dit, c'est qu'un jour, des caméramans de TF1 sont venus. Ils voulaient le filmer pour un petit sujet exotique. Et il s'est battu avec eux, en fait. Il a refusé immédiatement qu'il filme. Et comme les autres restaient là, il s'était battu avec eux. Non, la seule chose que Ludovic m'a dit, c'est qu'il était excessivement nerveux. Et je me suis dit, c'est quasiment de là que j'ai sorti tout le livre, en fait. Alors que, bon, c'est un peu évident, c'est un peu... Enfin, c'est pas hyper... c'est pas fou comme information. Mais entre l'humour de ce type, apparemment son excessive nervosité, et puis le lieu aussi fou que comme ça, la porte-maillot, c'était possible de sortir un livre de ça, en fait. Juste de ces trois-là. De la même façon que Anissa, outre le fait que c'était une histoire dingue, terrible, en fait, Anissa m'a un jour raconté une chose qui, au bout du compte, ne se retrouve pas dans le livre. Elle m'a raconté que quand elle est allée au Mali pour une première fois, donc avant la mort d'Idriss, mais alors qu'Idriss était déjà en prison, La fille d'Idriss, la petite fille d'Idriss qui avait 5, 6 ans, 7 ans à l'époque, 6 ans, a fui devant Anissa, en fait. Et pendant 2 ou 3 jours, elle voulait absolument pas la regarder, l'approcher, etc. Et ça, j'ai été saisi par ce truc-là, en fait. Et donc là, c'est pareil, ça a vraiment été le bout par lequel, tout d'un coup, je rentrais, moi, dans cette histoire-là, en fait. Ou plutôt que je faisais une place à cette histoire-là. C'est-à-dire l'effroi de cette gamine qui... Est-ce qu'elle sentait quelque chose? Enfin, j'en sais rien, là, ça devient de la littérature quand on dit ça, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup retenu. Donc c'est fou, parce que dans ces deux cas-là, j'ai encore la main sur l'espèce d'émotion de départ qui m'a permis d'écrire le truc. Alors que des fois, quand on est lancé dans des projets très longs, on en vient à oublier quelle a été un peu la matrice, l'émotion un peu qui a servi de matrice au truc. Là, comme ce sont des livres plus courts, c'est assez facile de continuer tout du long de l'écriture à tenir tous les fils, en fait, notamment celui-là.
D'autres questions?
Moi, j'aurais voulu savoir quelle part avait ou pas l'actualité dans ton écriture, c'est-à-dire au sens où, par exemple, le numéro des cours, 1973, tu l'écris aussi au moment où il y a les lois de plus en plus dures contre les sans-papiers. Est-ce que ça accompagne à un titre ou à un autre ton écriture? Non pas pour le reconstruire littéralement, mais j'aurais aimé savoir
quel mot ça. C'est là comme un magma. C'est-à-dire, par exemple, là, dans Numéro d'écrou, un autre auteur aurait pu effectivement vouloir aller très très loin, beaucoup plus explicite dans le rendu des complexités administratives. Par exemple, j'ai lu un livre assez passionnant de Marie Connet qui s'appelle « Entre chagrin et néant », et qui est en fait le compte-rendu d'une année. Pendant une année, elle a suivi en fait toutes les audiences du tribunal à Pau, je crois. Et donc elle déroule à chaque fois... les impossibles situations administratives en fait, des sans-papiers qui passent comme ça devant le juge. J'aurais pu vouloir rendre compte de ça, je ne l'ai pas fait de fait. Et donc c'est très présent, puisque ce livre-là ne peut pas être écrit dans les années 80, où la situation justement qui était faite à l'immigration subsaharienne n'était pas du tout la même, administrativement. Donc mais voilà, c'est là comme un magma, quoi. Pas comme un halo, c'est-à-dire vraiment comme quelque chose qui nourrit le et c'est valable pour les autres livres, c'est-à-dire que c'est dans Anima Motrix, où c'était déjà la question comme ça des réfugiés qui arrivent aux portes de l'Europe de Schengen, c'était sans en passer par l'exploration des textes de loi, et puis par exemple d'essayer de faire un texte qui serait, je sais pas moi, un mélange de cut-up et de, tu vois, de donc si ça rentre en compte dans l'écriture, c'est en amont, et puis ensuite par contre ça réapparaît pas de manière brute dans le texte. Par contre j'aime bien ça chez les autres, en fait, mais c'est vrai que moi je le fais pas immédiatement, mais j'aime beaucoup les inserts de tu vois, par exemple de citations brutes qui seraient justement des directives, des et ensuite l'actualité, bah elle, si elle fait réagir, par exemple pour Anima Motrix, toute la fin se passe sur les deux enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et Melilla, Ceuta et Melilla, et en fait j'avais déjà prévu de travailler sur ça au moment où il y a eu les images les plus sidérantes de ces deux enclaves là. Et donc tout d'un coup moi, j'avais pas des images aussi violentes, parce que moi, ce que j'avais vu, c'était un reportage plus d'une dizaine d'années avant, mais qui m'avait sidéré de par la violence de ce qui était décrit sur la mentalité des types qui attendaient une faille dans le dispositif pour arriver à passer. Puis tout d'un coup, je vois aux infos, ça a duré pendant plus de 3 mois, toutes ces tentatives-là, comme ça, où ils arrivaient comme ça à 300, 400 pour essayer de grimper sur les grillages. Et donc là, évidemment, je fais immédiatement une place à ça, alors que moi, j'étais parti sur un truc beaucoup moins spectaculaire. Mais à ce moment-là, ça n'avait plus de sens d'en rester à quelque chose de discret et d'individuel, quoi. Donc il y a des moments où ça te dépasse, et puis il y a d'autres moments où c'est plus là comme moi.
Merci Arnaud.
Merci Guénel.
La prochaine soirée.